Franz Schubert par Octave Béliard. Le moindre degré de génie est un redoutable privilège. Les hommes qui naissent marqués au front de l'étincelle divine sont généralement voués à l'épreuve. Le moins qu'il puisse leur arriver, c'est de se heurter à des difficultés sans nombre qui, comme de mauvaises fées, contrecarrent leurs aspirations et leurs désirs, alors que les gens de talent ou les simples habiles conquièrent en se jouant la notoriété et la fortune. La plupart d'entre eux sont grandis par le risque et par la souffrance. On les voit courir des aventures tragiques, supporter la misère, la maladie, aimer désespérément des indifférentes, des infidèles, que leur personnalité incommode, qu'ils se croient sacrifiés à l'œuvre, et se réfugient contre l'étrangeté de leur amour, dans l'amour des hommes du commun. Leurs fautes même paraissent plus lourdes que celles du vulgaire, et de plus dramatiques conséquences, soit qu'en effet, ils excèdent en tout l'ordinaire mesure, soit plutôt que leur conscience exceptionnellement délicate leur reproche durement ce qui, pour d'autres, ne serait que peccadille. Et en somme, peut-être ne sont-ils pas plus chargés que quiconque, et toute leur infortune leur vient-elle d'être de tous les humains les plus sensibles. Quoi qu'il en soit, il semble bien que la sublimité d'une œuvre soit toujours achetée au prix d'une vie douloureuse. Mais à la vérité, toutes les douleurs ne sont pas causées par des offenses extérieures, et il n'est pas toujours possible de découvrir dans les événements dont est faite l'existence d'un homme de génie celui qui blessa, celui qui fit jaillir le beau cri que la postérité a entendu. La vie du grand Franz Schubert, par exemple, est en apparence la plus dépourvue d'aventures et la plus monotone qui soit. L'amour n'y joue aucun rôle d'importance. Schubert, qui tel est, n'intéresse pas les femmes et ne donna aucun signe tendant à faire croire nettement qu'il fût intéressé par elle. Né pauvre, il lutta contre la médiocrité et atteignit la gloire avec peine, mais cependant assez tôt, car son existence fut courte. Il eut le travail abondant et facile, produisant des chefs-d'œuvre avec l'indifférente générosité du pommier qui produit des pommes. Il hanta les salons bourgeois où l'on aime la musique et les cabarets où il faisait bruyamment la noce avec des copains bohèmes comme lui. Et pourtant Beethoven disait « Dans ce Schubert, il y a vraiment une étincelle divine. » Il disait même, paraît-il, « Celui-là me dépassera. » En nulle musique, plus que dans celle de ce petit bourgeois, l'on ne trouve éclose les fleurs du sentiment avec la romantique mélancolie et les vives impressions de nature. S'il faut un drame pour faire pousser le génie, où le verra-t-on ici? Et comment cet homme sans passion donna-t-il l'espérance qu'il égalerait, s'il vivait assez longtemps, cet énorme Beethoven, si passionné et malheureux? Il faut comprendre qu'il y a des tragédies intérieures et que Schubert dut cacher pudiquement en lui la perpétuelle amertume d'avoir une vie inférieure à celle qu'il rêvait. Mais il eut la fierté de ne pas mendier l'amour qu'il craignait de se voir refuser. Il accepta crânement la médiocrité et eut l'élégance d'en sourire, d'en rire même, avec éclat. Il eut son refuge dans un rêve qu'il ne confia à personne, autrement que dans l'œuvre immortelle, où s'épancha toute sa tendresse sans objet, toute sa sensibilité refoulée. Et peut-être ne fut-il grand que parce qu'il ne fut pas aimé. Franz Schubert naquit à Vienne le 31 janvier 1797. Ses ancêtres étaient des paysans silésiens, riches de leur seule droiture et généralement chargés de familles nombreuses. Son père, nommé Franz comme lui, infidèle à l'appel ancestral de la terre, exerçait dans le faubourg viennois de Lichtenthal la profession de maître d'école. Il avait épousé la fille d'un serrurier, ancienne cuisinière, qui lui donna 14 enfants. La musique est en quelque sorte en Autriche, pays de Haydn et de Mozart, un art national. Tous ces Schubert en étaient amateurs et le père lui-même, qui apprenait le solfège aux écoliers, jouait agréablement du violoncelle. À l'école, le jeune Franz apprit sans effort et tint toujours la tête de sa classe. À 8 ans, on lui enseigna le violon puis le piano, et il révéla des dons prodigieux. Doué d'une jolie voix de soprano, il fut l'orgueil du vieux maître de chant de la paroisse, Michel Holzer, qui a dit de lui « Quand je voulais lui apprendre quelque chose de nouveau, il le savait déjà. » Aussi, quand il eut 11 ans, osa-t-on le présenter au concours pour une place de choriste dans la chapelle impériale, et il l'emporta brillamment sur de nombreux concurrents. Cette place lui valut le privilège d'entrer au collège d'État et d'y être élevé aux frais de l'empereur. Au collège, il se montra d'abord silencieux et mélancolique. Il y souffrait du froid, de la mauvaise nourriture, de sa situation humiliée vis-à-vis de camarades riches et dédaigneux. Mais un commun amour de la musique lui fit rapidement des amis. Stadler, Holzapfel, Spaun, qu'il aima toujours et qui, plus tard, aidèrent à son introduction dans la société viennoise. Les études musicales des élèves étaient très poussées. Ils étaient formés en un orchestre. On leur faisait jouer de la musique de Haydn et de Mozart. Franz montrait déjà un enthousiasme fou et un talent envié. Il s'essayait à la composition avec tant de bonheur que le chef d'orchestre, Wenzel Rudzinska, ambitionna de lui donner des leçons et s'aperçut tout de suite que son élève savait déjà tout, qu'il n'avait rien à lui enseigner, qu'il avait tout appris du bon Dieu. En apprenant que son fils négligeait pour la musique le reste du programme des études, le père Schubert, qui ne craignait rien tant que de le voir devenir un musicien professionnel, s'en coléra violemment et lui fit des forces de reparaître à la maison paternelle. Il y rentra pourtant en 1812, lors de la mort de sa mère, et ce triste événement le réconcilia avec un père exagérément autoritaire qui reconnut enfin son talent. Devenu l'élève du vieux Salieri, maître de chapelle de la cour, Schubert composait ses premiers quatuors, des lieds, une cantate, et conduit plusieurs fois au théâtre, commença de concevoir ce rêve d'écrire des opéras, qui le poursuivit toute sa vie et ne fut jamais réellement satisfait. Il avait 16 ans. Sorti du collège sans avoir terminé ses études, Franz, avec de grandes ambitions, se trouva aux prises avec le problème du pain, et son père le força à préparer l'examen qui devait le rendre apte à exercer dans son école les fonctions d'instituteur adjoint. Ce fut en ce temps-là qu'il composa sa messe en fa, exécutée dans l'église de sa paroisse, et le premier de ses véritables chefs-d'œuvre, tel Marguerite Rouet, en 1814. Lied d'amour et de détresse, dont on ne comprendrait pas le charme poignant si l'on n'apercevait pas, dans les alentours du musicien, la silhouette presque transparente, presque inconsistante, de Thérèse Grob. C'était une très jeune fille, pas jolie, marquée de petites véroles, mais très bonne, qui chantait les solis à l'église. On sait peu de choses d'elle, sinon qu'il fut question de son mariage avec Schubert. Mais celui-ci était trop pauvre. Elle l'attendit 3 ans, après quoi elle épousa un boulanger. Ce pauvre amour frileux et discret de la 17e année est vraiment le seul que le musicien timide avoue jamais. Encore ne fût-ce qu'à mot couvert, à ses amis qui le raillaient un peu de son apparent éloignement pour les femmes. Et qui sait si nous ne lui devons pas, si nous ne devons pas, au regret qu'il inspira, toute la floraison des lieds. Schubert fut instituteur durant 3 ans, de 1814 à 1817. Un instituteur détestable, distrait, sans autorité, prompt à s'évader de sa classe où le ramenait la sévérité paternelle. Il touchait pour cela l'insuffisante somme annuelle de 40 florins et était obligé de régler lui-même son papier, faute de pouvoir acheter du papier à musique. Cette période d'anti-dénuement fut pourtant bien employée pour sa gloire. Rien qu'en l'an 1815, il composa 4 opéras comiques, 144 lieds, 2 symphonies, 2 messes, des morceaux religieux et des chœurs sans nombre, un quatuor à cordes, 2 sonates et des morceaux de piano. Il écrivait partout, à tout propos, comme en courant, avec une telle indifférence pour l'œuvre faite qu'il ne pensait qu'à l'œuvre à faire et oubliait même ce qu'il avait écrit. C'est le temps de l'admirable roi des aunes et de tant d'autres beaux lieds, le plus souvent composé sur des poèmes de Goethe, à qui Schubert les envoyait respectueusement, sans jamais être honoré d'une réponse. Il fut le véritable créateur du lied, ce genre musical si adorable, qui tient à la fois de la romance et de la chanson, et qui est comme l'expression spécifique de la sensibilité du Gemütlich allemand. Schubert était inconnu du grand public, des chanteurs et des exécutants renommés et souhaitables, des éditeurs qui les conduisaient. Mais déjà un groupe grossissant d'amis l'entourait et travaillait à sa renommée. Spaun, Schober, Mayrhofer, Sen. Une chaude et jeune amitié joua toujours, à défaut de l'amour, le grand rôle de son existence. En 1817, il lâche l'école pour devenir professeur des deux filles du comte Esterházy en Hongrie. L'une de ses deux élèves lui plut. Il l'aimait peut-être, mais n'osa jamais le lui dire. Au bout d'un an, il revint à Vienne, bohème, sans domicile fixe. Son père, ne pouvant faire définitivement un instituteur, l'avait une seconde fois chassé. Il couchait tantôt chez son ami Schober, tantôt dans la soupente de son autre ami Meyerhofer. Et, dans l'intervalle de ses fiévreuses compositions, il s'ébaudissait à boire de la bière en mangeant des saucisses à l'auberge de la couronne hongroise, dont il avait fait le salon d'interminables causeries nocturnes terminées par des ribotes où l'on cassait joyeusement la vaisselle. C'est sur une table de café et au dos d'un menu qu'il écrivit un jour sa fameuse sérénade, et ses amis s'arrachaient des chefs-d'œuvre griffonnés au hasard, dont ils ne se souvenaient plus et dont un grand nombre, sans doute, sont perdus. Le succès restreint de petites œuvres de théâtre, opéra comique ou mélodrame, lui valut l'accès de quelques salons et principalement de celui de la famille Frohlich, où trônaient quatre belles jeunes filles, fanatiques de musique. La plus jolie, Catherine, fut l'éternelle fiancée d'une sorte d'amoureux professionnel, le trop beau poète Franz Grillparzer. Familier de la maison, Schubert apportait ses nouvelles compositions, s'asseyait au piano et, tenant l'auditoire sous le charme, tissait la mélodie dont s'exaltait cette idylle. Mélancolique accompagnateur, au seuil d'un paradis d'amour dont l'entrée lui était interdite, il fermait l'oreille au bruit des baisers que sa musique faisait naître. Un grand musicien, un cœur d'or, un bon garçon toujours gai et officieux, disait-on. Il ne montrait aucune jalousie du bonheur d'autrui. Mais peut-être reconnaîtrait-on le douloureux secret de cette âme solitaire dans les accents pathétiques de la symphonie inachevée, et peut-être l'effroi qu'il ressentit de s'être confessé dans cette partition fut-il cause qu'il ne l'acheva pas. Il vivait maigrement du bénéfice de quelques tournées avec le chanteur Vogel, des libéralités de ses amis et de la vente de ses œuvres, si peu soucieux de ses intérêts qu'on lui achetait 10 livres pour 15 francs. Ses essais de théâtre, qui lui tenaient surtout au cœur, ne furent point encouragés. Il n'eut même pas la consolation de rencontrer Beethoven, son dieu, qu'il ne vit que mort, sur un lit de parade. Le réconfort d'amitié fidèle et constamment renouvelé ne manqua jamais à Schubert, et il conquit peu à peu l'admiration des musiciens et des gens de goût. Mais le grand public s'obstinait à l'ignorer. Sa pièce, Rosamonde, ne fut jouée que 2 fois. Alfonso et Astrella furent refusés. Malgré le succès de certaines tournées et de certains concerts, il demeura pauvre jusqu'au bout et presque sans domicile, tantôt l'hôte de la maison d'école de son père avec qui il s'était réconcilié, tantôt celui de garni d'étudiants. D'heureuses petites affaires d'édition ne lui valaient qu'une aisance transitoire. Il refusait d'ailleurs, par goût de l'indépendance, les places qu'on lui offrait. Son cœur naïf et vide d'amour cherchait des dérivations indignes de lui, et les irrégularités de sa vie lui apportèrent la maladie. Ce garçon que l'on avait cru insouciant et joyeux laissa transparaître sa tristesse foncière. Il disait « Mes œuvres sont les enfants de mon intelligence et de ma douleur. » Le cycle des Lides de la belle Meunière montre encore l'idéal fraîcheur de sa jeunesse, mais on ne voit que sombre inspiration dans son voyage d'hiver, mélancolie et désenchantement dans les dernières œuvres qu'on a réunies sous le titre de « Chant du Cygne ». L'impression de sa vie perdue lui faisait une vieillesse prématurée, une misère dépressive qui le vouait aux déchéances. Franz Schubert mourut le 19 novembre 1828 dans sa 32e année, après une période de délire où il répétait qu'il ne voulait pas être laissé dans ce coin de terre et criait « Beethoven ne repose pas ici ». On crut donc obéir à ses dernières volontés en transportant ses restes près de ceux du grand musicien qu'il avait tant admiré et aimé. Aujourd'hui, dans le cimetière central de Vienne, sa tombe avoisine celle de Beethoven, de Mozart et de Gluck. C'était Franz Schubert par Octave Billiard.